Est-ce que vous m'entendez bien? Je m'appelle Sylvie. J'ai deux choses à vous dire ce matin. Dieu vous aime. Et il a un super plan pour vos vies. Vous le croyez? Tous? Toutes? Magnifique. Donc, vous avez tous et toutes reçu le Seigneur Jésus comme sauveur dans vos cœurs, dans vos vies. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas fait cette démarche? Non, super. Donc, tous et toutes, si aujourd'hui il devait vous arriver quelque chose, je ne vous le souhaite pas, hein, mais s'il devait vous arriver quelque chose, vous êtes sûr d'aller au ciel auprès du Seigneur? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'en est pas sûr? Il faut le dire, hein, faut oser, hein, ce n'est pas un jugement. Hein. Comme ça, on pourra prier pour vous. Bon, ben c'est magnifique alors. Je vais peut-être m'arrêter là en fait. Non, je vais continuer un petit peu encore avec vous. Vous me connaissez, hein, je suis bavarde. Donc, Dieu a un plan pour nous tous et toutes autant que nous sommes ici ce matin. Nous sommes tous et toutes filles et fils de Dieu. Le Dieu créateur de l'univers. Il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé Adam et Ève, et il nous a créés tous et toutes autant que nous sommes. Ensemble, tous, nous sommes une église en mouvement, une église en transmission. Et cette semaine, c'est ce que nous avons pu voir avec le Turning. Nous avons vu des hommes et des femmes, des aînés, des jeunes, des leaders, des membres, des personnes qui avaient l'habitude, des personnes qui ne l'avaient pas du tout, des personnes qui ne voulaient pas y aller, se lever ensemble pour aller porter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Magnifique. On a vécu une semaine retournante, bouleversante, magnifique. Nicolas nous l'a dit et on va encore le voir. Nous avons vu l'église avec un grand E, c'est-à-dire plusieurs églises réunies ensemble comme un seul corps, se lever pour aller porter la nouvelle de l'amour de Dieu, la nouvelle du fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Vous le croyez? Amen. Nous avons vu une église en transmission. Mais en fait, c'est quoi une église en transmission? Elle est gentille, Sylvie, là, mais on aimerait bien qu'elle nous explique. Une église en transmission commence toujours par un individu, puis deux individus, puis trois individus qui se lèvent. Et on va prendre la Bible dans Luc, au chapitre 5, des versets 1 à 11. C'est au tout début du ministère de Jésus. Il a été baptisé, il a commencé à prêcher, il n'a pas encore ses disciples. Il marche à travers la Galilée et là il arrive proche au bord du lac de Génézareth. La foule se presse autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis Jésus s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et va jeter tes filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons qui était une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Alors ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Les deux barques s'enfonçaient dans le lac. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques, Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Pour beaucoup d'entre nous, notre vie ressemble à celle de Simon avant sa rencontre avec Jésus. Après une nuit de travail, on n'a rien dans les filets. On en a plein les bottes. On est frustré. On est fatigué. Simon en avait certainement marre. Il n'avait qu'une idée, c'était rentrer chez lui. Moi, la pêche, elle n'a rien donné. Les filets, ils sont vides. J'en ai marre. Je rentre à la maison. Là, je vois des sourires. Hein. Vous connaissez. Vous savez de quoi je parle. Mais arrive Jésus, ce prédicateur que Simon ne connaissait même pas. Il réquisitionne la barque. Et Simon, il ne doit pas être très content, hein, imaginez. Hein. Après 12 heures de boulot, une nuit de boulot, vous rentrez à la maison, vous avez envie d'aller vous coucher. Et il arrive un prédicateur là, qui vous dit, ben, allez, reprends ta voiture, on y va. On n'a pas envie. Hein. Alors Simon, il devait ronchonner quand même un peu. Hein. D'ailleurs, au verset 5, il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sous-entendu, on en a assez, quoi. Mais Jésus, il a un plan pour Simon. Alors, il va prêcher à la foule, et quand il a fini de prêcher, il renvoie Simon à la pêche. Il ne s'est pas contenté de réquisitionner la barque et puis de le ramener sur le lac pour prêcher, il le renvoie encore à la pêche. Là, il y a de quoi en avoir marre, hein, quand même. Pas exagéré. Alors Simon, là, il n'y croit pas trop. Hein. Il n'y croit pas trop, mais il dit... « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Uniquement sur la parole de Jésus, malgré sa fatigue, il va jeter les filets. Et là, je vous invite à accueillir Lucille. Lucille ? Lucille, cette semaine, tu es sortie pour la toute première fois. Et là, tu es venue nous faire un petit topo de tes premières sorties.
Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne sais pas parler dans un micro, ça va ?
Tu le tiens comme ça. Ouais, tu le tiens comme ça.
Alors effectivement, il y a 2 mois, quand on a parlé de deux turnings, je vous avoue que je m'étais dit, je partirai en vacances. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à ça, j'aurais une bonne excuse. Et là, je me suis dit, non, c'est pas juste, ça vient pas de Dieu, ces pensées-là. Lucille, tu vas rester ici, tu te laisses ouverte à la possibilité de t'engager. Et comme ils le savent, je me suis notée juste dans amener la nourriture, mais je me suis pas inscrite dans je vais aller en mission. Hein. J'ai dit à Sylvie, je m'engage pas, mais peut-être que je viens. Et ben Dieu, il a vraiment agi en moi. Et puis, j'ai plus peur maintenant de vous parler devant vous que ce que j'étais dans la rue, pour de vrai. Dans la rue, ça allait super bien. J'étais remplie de la grâce de Dieu, de l'amour qu'il avait. Et c'était tellement enrichissant, même de plein de manières. De un, d'aller à la rencontre des personnes qui ne croient pas en Dieu. De voir comment elles sont touchées, émues. Il y a aussi le partage avec les frères et sœurs qu'on a pu avoir. C'était hyper touchant aussi. On a été restaurés nous-mêmes aussi chaque soir hein, par les messages, la louange. C'était vraiment un temps fort. Et moi, j'ai fait seulement 3 fois l'émission. Alors ceux qu'on fait toute la semaine, ils doivent être encore plus bouillants que moi. Donc voilà, c'était juste riche. Et là, pour moi, c'est qu'un début. Ça veut dire que maintenant, je suis libérée de... Avant, j'avais peur de parler de Jésus, d'utiliser ce mot, en fait, et, à part avec les frères et sœurs, mais avec les non-croyants. Et maintenant, mais waouh, si je le sens, je peux parler. Et je suis libérée de ça, quoi. C'est trop chouette.
Merci, Lucille. Lucille l'a dit très bien, ce n'est qu'un début. Lucille a choisi d'obéir à la voix de Dieu qui lui disait d'aller à la pêche, d'aller évangéliser avec The Turning. Elle a fait confiance au Seigneur, elle n'est pas partie en vacances, elle a fait confiance au Seigneur. Et comme pour Simon, la pêche de Lucille a été miraculeuse. Elle n'a pas fait couler la barque, parce qu'à chaud de fond, on n'est pas un lac, mais la pêche a été miraculeuse. Jésus a répondu à l'obéissance de Lucille, comme il avait répondu à celle de Simon. C'est cette obéissance qui a changé la vie de Simon, c'est cette obéissance qui a changé la vie de Lucille. Maintenant, elle peut dire ce n'est qu'un début. Quant au verset 8, il est écrit « Simon Pierre tomba à genoux ». Le changement dans la vie de Simon était en train de s'opérer. C'est là la toute première fois qu'il est écrit « Simon Pierre ». Avant, c'était Simon. Et là, il est écrit « Simon Pierre ». C'est ce Pierre-là, cet homme-là, qui plus tard est devenu pêcheur d'hommes et qui après, bien après, on le voit, devient la pierre sur laquelle Jésus va construire son église. Il n'avait pas envie d'aller à la pêche, il en avait plein les bottes. Et pourtant, Jésus a fait de lui un pêcheur d'hommes et plus tard, la pierre sur laquelle il construit son église. Après ça, Simon dit « Seigneur ». Il ne dit plus « Maître », il dit « Seigneur ». Parce qu'il est parce que Jésus est en train de donner une nouvelle identité à Simon-Pierre. Simon l'a reconnu comme Seigneur et Sauveur. Il devient Pierre. Simon-Pierre était un homme comme tout le monde. Il était un homme comme vous les hommes, ou comme il aurait été une femme, comme nous sommes. Il était un individu comme il y en a beaucoup. Et ce matin-là était un matin comme les autres pour Simon. C'est presque, parce que des fois il avait la pêche qui avait marché. Mais ce matin-là était un matin comme les autres, et pas très bon d'ailleurs. Jusqu'à sa rencontre avec Jésus-Christ. Jusqu'à ce que cette rencontre transforme sa vie et change tout. Jésus avait un projet pour Simon, le pêcheur de poissons. Il a fait de lui, Pierre, le pêcheur d'hommes. Alors Pierre, il n'a pas compris tout de suite. Hein. Il lui a fallu du temps. Il n'a pas une vie parfaite. Il a encore fait des erreurs. Dans le jardin de Gethsémané, alors que Jésus leur a demandé de prier, il s'est endormi comme tous les autres. Après l'arrestation de Jésus, il a renié Jésus 3 fois même. Pas une, 3 fois. Donc il n'avait vraiment pas une vie parfaite. Jésus savait tout ça, mais Jésus, il ne voyait pas que ça. Jésus, il voyait bien au-delà. Il savait quel disciple dévoué Pierre allait devenir. Parce qu'il ne regarde pas à nos infirmités, il ne regarde pas à nos difficultés, il ne regarde pas nos erreurs passées, ni celles que nous avons faites ou celles que nous allons faire. Il ne regarde pas nos échecs. Il ne regarde pas les péchés que nous avons commis. Aucun péché n'est disqualifiable avec Dieu parce qu'il voit notre cœur. Dieu voit notre cœur. Jésus est mort sur la croix pour nous parce qu'il voit notre cœur. Et là, on voit dans sa parole, il nous dit, n'aie pas peur. Et ce sont avec des êtres comme Simon, devenu Pierre, que Dieu veut construire son Église. Alors là, peut-être que vous dites, ouais, mais enfin, Pierre, c'était Pierre. Hein. Et nous, ben, on n'est pas Pierre. Hein. Alors, ben, du coup, j'invite Noémie à vous dire, venir nous dire quelques petits mots. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors j'aimerais déjà que tu nous dises quel âge tu as.
J'ai 13 ans.
Tu es sortie avec The Turning 2 fois cette semaine, je crois, c'est ça. Et c'était la toute première fois que tu allais évangéliser. Et là, tu es venue nous parler de Douglas. Alors je te laisse la parole.
Donc moi, je vais vous parler de Douglas, un jeune d'à peu près 20 ans, que j'ai rencontré vendredi avec Adélaïde et mon père Marc. Donc ce jeune homme, il m'a vraiment touchée. Il m'a vraiment touchée car au début, quand on lui a dit qu'on croyait en Dieu, il nous a dit que lui, il croyait en une énergie et que s'il allait mourir, il allait avoir des cellules de lui qui allaient se déposer dans le monde. Il était vraiment fermé avec
une relation avec Dieu, et il nous a vraiment fait comprendre que sa théorie était la bonne et pas la nôtre. Puis il a accepté qu'on prie pour lui, et à la fin il nous a quand même dit que peut-être un jour il marchera dans le chemin de Dieu. Donc il va vraiment toucher, car au début on a vraiment vu qu'il était vraiment fermé, et après ben, que c'était peut-être possible avec Dieu.
Merci Noémie. C'est magnifique, hein? C'est avec des êtres comme Pierre et comme Noémie, sincères, dévoués, obéissants malgré la fatigue, malgré la timidité, parce que Noémie est une jeune fille timide, malgré son jeune âge, que Dieu veut construire son Église. Dieu ne veut pas nous donner la fortune, il ne veut pas nous rendre invincibles, il ne veut pas nous rendre orgueilleux. Il n'attend pas de nous que nous entrions dans sa vie. Il attend que nous le laissions entrer dans la nôtre. Que nous acceptions Jésus le Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il attend que nous ayons une relation avec lui. Et que nous devenions des êtres transformés qui reflètent la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Tous autant que nous sommes, tous autant que vous êtes, Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous avons fait, ou de ce que nous n'avons pas fait aussi. Il nous aime parce que c'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. La Bible, dans la Genèse, elle dit que Dieu, il a donné le souffle de vie. Le souffle de vie, il nous l'a donné à tous. Il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Il nous a donné le souffle qui nous permet de respirer, qui nous permet de vivre. Il a tissé Noémie dans le ventre de sa maman. Il avait tissé Pierre dans le ventre de sa mère. Et aujourd'hui, au cours de ce culte, nous vous invitons encore et encore à vous tourner vers cet amour du Père, de celui qui vous a donné la vie un jour, au-delà de vos parents. Vers cet amour du Père. Quand vous l'avez, cet amour, là on a découvert ça cette semaine, enfin on l'a découvert ou redécouvert, quand on a cet amour qui vient nous toucher comme ça profondément, on ne peut plus être indifférent au regard des autres. On ne peut plus être indifférent aux autres autour de nous. On n'a plus le même regard. Ni à la foule autour de nous, ni sur les gens qui nous sont proches, ni sur les gens qui ont soif de la parole de Dieu. Plus jamais nous ne pouvons nous détourner de quelqu'un qui a besoin d'amour. Et là, pour vous en parler, j'invite Monique et Marc à venir devant. Alors Monique et Marc, vous avez été en binôme cette semaine, vous avez fait une sortie tous les deux et vous avez rencontré une personne dont vous voulez nous parler aujourd'hui. C'est ça ? Vas-y Monique.
On était devant la grande micro.
Et sur un banc, il y avait un monsieur. On s'est senti aller vers lui pour lui parler de l'amour de Jésus. Et on a senti qu'il était vraiment profondément blessé, tout ça. On voyait qu'il avait plein de problèmes. Et il nous a bien écoutés, il était ouvert à nous écouter.
Et quand on arrive, la procédure ou la veut qu'on aille en disant notre prénom. Et au moment où on dit notre prénom, il dit « Ah, Monique, ma femme s'appelait comme ça. » Et après, dans la discussion, il nous a dit que son épouse qui était décédée, on voyait qu'il y avait de la souffrance, elle s'appelait Monique. Et il y a eu un sourire. Alors c'était un homme particulier parce que quand on lui a demandé son prénom, il n'a pas voulu nous le dire. Mais il était ouvert. C'était un monsieur avec un handicap, il avait une canne. On était assis au soleil, c'était agréable. Et ce monsieur, dans mon cœur, quand on parlait d'entendre la voix de Dieu, dans mon cœur, moi j'ai entendu « écoute-le ». Ça veut dire quand j'entends ça dans mon cœur, je me la coince et j'écoute. Et, parce que je suis assez bavard, et, ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, et on a commencé, on a commencé à l'écouter. Et peut-être un petit détail assez drôle aussi, c'est un monsieur qui était d'origine indienne et qui parlait français tout doucement avec un accent particulier. Et moi, au niveau professionnel, ça fait 4 ans que j'ai à traiter avec un monsieur indien. Au début, je ne comprenais pas du tout son français parce que c'est une manière très particulière de parler le français. Et ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, ça m'a formé. Monique a de la peine à le comprendre. Et moi, j'avais l'oreille un petit peu formée à ça. Je pense que Dieu peut préparer comme ça des rencontres. Et je crois que cette rencontre-là, elle était préparée. Et donc, visiblement, il a plus envie de parler que de nous écouter. Et est-ce que tu veux continuer? Tu as trouvé quoi dire ou je continue?
Faut dire que oui, j'avais beaucoup de peine à le comprendre, mais dans mon cœur, je priais beaucoup. Parce qu'il me venait de prier puis de prendre autorité sur les puissances pour que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur. Et Marc, il a demandé si tu voudrais demander quelque chose à Dieu. Est-ce que tu veux le dire ou je le dis? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Et il a répondu qu'il m'enlève la haine et qu'il me donne l'amour. Et Marc, il a prié, il n'a pas voulu donner au début sa main, mais après il a tendu sa main quand il a commencé de prier pour qu'il puisse prendre sa main. Et
monsieur, oui. Bien, qui ne voulait pas que je prenne sa main, au commencement de la prière, il a tendu sa main.
Et il a donné la main et il a prié. Et après, il est d'accord qu'on se revoie. Je me dis c'est bien parce que ça sera avec lui, pas avec moi. Et quand on est... Et quand on a voulu partir, puis on s'est donné la main pour se saluer, et il a dit, tu viendras aussi, hein?
Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'était le fait d'aller ensemble, d'aller à deux, et d'aller un homme, une femme. Ça, c'était très bien, les hommes allaient vers les hommes, les femmes allaient vers les femmes. Et on était complémentaires. Quand l'autre parlait, l'autre priait, etc. Et il y a aussi une chose qui a été très très bien, c'est d'être inter-église. On était toujours d'églises différentes. Et des fois les gens nous disaient, mais de quelle église êtes-vous? Ben, on disait, on est de plusieurs églises de la ville. Et ça, je pense que ça avait vraiment un témoignage. Et une complémentarité aussi dans la manière de voir les choses. Et c'était vraiment une grande richesse. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Justement, dans ce contexte, Monique, qui d'habitude va toujours avec son époux, elle a dû s'habituer à d'autres personnes et ça lui a aussi permis de faire l'effort, d'aller parler. Elle me disait, j'ai pas tellement l'habitude de parler, etc. Et c'était vraiment super. Moi, je bénis le Seigneur pour ces moments qu'on a eus ensemble. C'était vraiment chouette.
Oui, je voulais rajouter quelque chose.
J'ai à cœur de vous dire un autre jour. Le mercredi, je ne savais pas si... Parce que tous les 15 jours, le mercredi après-midi, j'ai un cours. Puis je me dis, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, ou je viens ici? Puis il m'est venu d'y aller. Puis je suis allée à ce cours. Parce que chaque fois, je redescends de ce cours. Je marche avec une personne, on est deux, pour rentrer à pied. On fait environ 10 minutes et chaque fois, on peut causer. Et j'avais déjà parlé de Dieu. J'avais déjà dit que si elle, j'avais déjà demandé une fois si elle croyait en Dieu. Elle m'a dit oui, je suis orthodoxe. Puis j'avais demandé aussi si elle croyait en Jésus. Elle m'a dit oui, mais je ne suis pas été plus loin. Et ce mercredi-là, pendant le cours, je pensais à mes frères et sœurs qui évangélisaient. Puis je priais pour que le Seigneur m'aide. Et j'ai été beaucoup plus décontractée. Et long du chemin, je me dis, ben, c'est bien parce que le Seigneur m'a rempli de lui. Alors, on arrive une route où il y a un passage pour piétons, puis on s'est dit, on attend que les voitures passent. Puis des fois, les voitures nous laissent passer, mais là, il y en a une qui est venue d'une ces vitesses qu'on on serait, comment est-ce qu'on dit, avancé, je crois qu'on serait été prise. Puis j'ai dit, oh, on a eu de la chance, hein, j'ai fait, parce que c'est pas le moment de s'en aller, parce que bon, si je pars, je sais où je vais, j'ai fait. Puis elle me fait, elle me dit, ouais, encore chance, et puis elle me dit, j'ai dit, puis toi, tu sais où tu vas? Et puis elle me dit, oui, bon. Et puis j'ai fait comme ça. En tout cas, c'est beau d'être au Seigneur. Et j'ai pu y parler beaucoup plus. Alors, elle est plus ouverte. Alors, comme je la vois tous les 15 jours, on pourra faire continuer avec ça.
Merci, Monique. L'amour. Cet homme avait besoin d'amour et Monique et Marc n'ont pas pu se détourner de lui. Avec The Turning, normalement, quand on brief les équipes, on reste 10 minutes à peu près avec une personne parce qu'on ne polémique pas, on va droit au but et après on part. On a une heure à chaque fois dehors et donc le temps est très court. Des fois il est long, mais il est très court. Et là, ils ont vraiment passé une bonne large demi-heure avec cet homme parce que, comme Marc l'a dit, il avait reçu cette parole, l'écoute, et cet homme avait besoin de l'amour. Ils n'ont pas pu se détourner. Ensemble, les uns et les autres, qui que nous soyons, quel que soit le lieu d'où nous venons, quelle que soit l'église d'où nous venons, ensemble, nous représentons une église vivante et en marche. Une église dans l'unité. Et pour vous parler de l'unité, j'invite Dominique à venir me rejoindre.
Bonjour. Moi, j'ai pris mon petit bout de
papier. Oui, vas-y.
J'ai pris mon petit bout de papier pour ne pas me disperser, parce que si je commence à causer, je suis comme Marc. Moi, je
faut me marrer.
Alors, j'avais aussi briefé la personne avec qui j'étais le matin. J'avais dit à Marc, bah, écoute, j'ai pas de problème d'aborder les gens, alors j'y vais. Je les abordais et puis, je disais les trois premières phrases du script et puis après, j'étais complètement... Voilà, je ne savais plus ce que je devais dire. Alors lui continuait et moi je priais. J'ai rencontré des personnes formidables. L'équipe avec qui... Enfin, j'étais avec Marc le matin et puis l'après-midi, j'étais avec Sacha. J'ai vécu des moments de partage, mais waouh ! J'ai dit, Seigneur, mais cette unité, mais ça fait du bien. Il n'y avait pas de... Qu'est-ce que j'ai marqué ? Il n'y avait pas de dénomination. Il y avait vraiment une... Ouais, j'étais en famille, j'étais bien. Et ça, moi je dis, Seigneur, j'en veux encore. J'en veux encore. Et je prie pour que nos responsables se mettent d'accord, puis qu'on continue. Amen.
Amen. Merci Dominique. Dominique est donc de l'église de Réveil. Elle a fait équipe avec Marc et Sacha, qui font partie de l'arc jurassien. Elle a vécu l'unité. Elle a vécu l'unité au sein de l'équipe alors qu'elle ne les connaissait pas, ni l'un ni l'autre. Et elle a vécu cette unité avec bonheur. Parce que quand l'Église trouve en Dieu son Père, elle peut s'unir avec bonheur. Elle peut se lever. L'Église sait qu'elle n'est plus orpheline quand elle trouve en Dieu son Père parce qu'elle se sait aimée. Seule, nous sommes des êtres absolument ordinaires. Mais ensemble, les uns avec les autres et avec Dieu, nous devenons des êtres extraordinaires. Des êtres qui sommes capables de faire des choses qui vont les mener bien plus loin encore que là où nous aurions pensé aller. Des êtres qui sont capables de sortir dans la rue pour aller évangéliser, alors que le reste du temps, c'est le silence. Alors peut-être vous dites, oui, elle est bien gentille, Sylvie, là, mais moi, j'habite pas tout près. Moi, j'habite à 20 minutes de l'église. Alors, je viens déjà le dimanche. Oh, allez, moi, j'habite à 30 minutes. Je viens le dimanche, je ne vais pas encore venir la semaine pour aller évangéliser. Moi, j'habite pas tout près quand même. Alors là, j'invite Pedro à venir nous rejoindre pour nous donner son témoignage. Tu sais tenir un micro. Alors,
bonjour
Pedro. J'aimerais déjà en quelques mots que tu... Ça marche ? En quelques mots que tu te présentes, que tu nous dises d'où tu viens.
Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Jesús Pedro. Donc, je suis chilien, j'habite en France, à Thonon-les-Bains, donc de l'autre côté de Lausanne. Hein, vous voyez un peu en face, de l'autre côté du lac Léman. Voilà.
Pedro, tu es venu vivre Veturning avec nous. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à la Chaux-de-Fonds pour venir vivre Veturning ?
Qu'est-ce qui m'a amené ? C'est vrai que Sylvie m'avait parlé de ce projet, parce qu'il y a toujours un projet derrière, et je l'espérais. Et là où le nom du Christ est annoncé, c'est là que je veux m'engager. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille. Voilà, c'est ça qui m'a amené à être ici parmi vous cette semaine.
Tu es arrivé ici, à part moi, tu connaissais personne. Comment tu as vécu Veturning ?
Je connaissais toi et Dominique, parce qu'on s'était déjà croissés quelques fois.
Elle était venue à Thonon.
Moi, je savais, j'avais entendu parler de Nicolas et de vous tous, même si je ne vous connaissais pas. Donc, je voulais aussi connaître la communauté d'envoi, l'église de Sylvie. Et j'avais peur. J'avais un petit peu peur. Ça, c'est très humain. Mais avoir peur, ce n'est pas un problème. Mais avoir peur d'avoir peur, là, c'est plutôt un problème. Donc, je me suis dit, non, Pedro, il faut que tu ailles. Et je l'ai vécu, mais d'une façon... Je n'ai pas de mots, vraiment. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Parce que j'ai pu goûter la présence, l'amour des dieux ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenu, parce que, de façon très inopinée, j'ai dû partir mardi soir. Et je ne voulais pas, mais j'ai dû partir. Je ne savais pas si j'allais revenir. Et c'est vrai que quand je suis venu pour la première fois, donc au début de semaine, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure, mais j'ai décidé de revenir hier pour finir ce turning qui pour moi d'ailleurs a commencé en acte 3. Donc ça vient de loin. Nous sommes dans le relais. Et je me suis décidé à revenir parce que j'avais goûté l'amour de Dieu cette semaine ici. Et je disais ce matin à une amie par texto que je suis un genre de chercheur de bénédiction. Donc là où il y a Dieu, il y a la bénédiction des dieux, là j'essaye d'y être aussi. Merci de m'avoir béni, accueilli toute cette semaine aussi.
Une dernière question, Pedro. Est-ce que tu aurais un encouragement à donner ? Un conseil ?
Je pense qu'elle fait exprès de demander un conseil parce que j'ai déjà dit plusieurs fois que je ne donne pas de conseils, je n'ai pas à donner des conseils à personne. C'est ma façon de voir les choses. Mais si j'ai quelque chose à vous partager, c'est tout simplement vous dire que vous encouragez à continuer dans la voie, dans cette voie, parce que vous savez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Vous savez tout ce qu'il vous faut. Vous savez l'amour de Dieu. J'avais témoigné aussi dans la semaine, lors de la présidence de mardi soir et aussi auprès d'autres frères, d'autres sœurs, qu'on a beau à faire, à préparer des campagnes d'évangélisation à droite, à gauche, à faire plein de choses, humainement très bien monter, organiser. Mais si Dieu n'est pas présent, si Dieu n'est pas au milieu de nous, si l'amour de Dieu n'est pas au milieu de nous, ça ne sert à rien. Et j'ai pu goûter cet amour. Et hier matin, on est sorti un petit moment avec Sylvie. Et je reprends une petite phrase. À un moment donné, on se retrouvait face à un stand, à un Péruvien qui vendait de la nourriture typique péruvienne, donc c'était en espagnol. Je suis revenu voir qu'est-ce qu'il y avait sur la table. Et donc, il y avait du ceviche, donc un plat typique péruvien, chilien. Et donc, je commence à expliquer à Sylvie qu'est-ce que c'est le ceviche. Il y a un moment donné, le monsieur qui était là, il m'a dit à moi en espagnol, il m'a dit, il ne faut plus continuer à l'expliquer, qu'est-ce que c'est ? Il faut qu'elle goûte. Mais bien évidemment. Et c'est pareil. Avec toutes les personnes que nous côtoyons, avec toutes les personnes que nous allons rencontrer. Bien sûr, on a à leur présenter l'évangile, et ça, il faut le formuler. Mais à un moment donné, il faut juste les aimer. Qu'ils puissent goûter l'amour de Dieu. Juste goûter l'amour de Dieu, parce qu'il nous dépasse. Et l'amour de Dieu est en vous. J'ai pu l'expérimenter, Sylvie, elle m'a dit, je finis, oui, je suis un petit peu bavard parfois, mais c'est important. Sylvie, à un moment donné, il m'a dit, je te mettre, toi tu es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'évangélisation, parce que j'ai pu évangéliser un peu différents pays, différentes cultures. Je lui ai dit, mais tu sais, j'ai rien à apprendre aux personnes avec qui j'ai pu sortir cette semaine. Lucille, Daniel, Dominique, Dora. J'ai rien à prendre. Rien à prendre parce qu'ils sont tout ce qu'il faut. C'est l'amour de Dieu. Et je finis avec ça. Moi, ça fait des années, je suis aumônier au milieu carcéral et psychiatrique en fin de vie. Et s'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui touche le cœur des gens, c'est juste l'amour. C'est la présence de Dieu. Et nous sommes témoins et ambassadeurs de l'amour de Dieu qui change. Si parfois, on n'a pas des mots, parce qu'on n'a pas de la théologie, les études, la formation, soi-disant, pour évangéliser, on a notre propre témoignage. Dieu, il m'a aimé et il m'a changé.
Amen. Merci, Pedro. Vous avez vu, il est aussi bavard que moi. Quand on fait un culte à ton nom, l'un la présidence et l'autre la prédication, on est presque obligé d'avoir deux micros et d'alterner la parole. À travers tous ces témoignages que vous avez entendus aujourd'hui, nous avons pu voir que ni l'âge, ni la peur, ni le manque de confiance en soi, ni la distance, aucune frontière, aucune langue n'empêche Dieu de créer l'unité pour construire son Église. Pedro vient de nous le dire, il vient de Tonon, il y a 200 kilomètres. Il est venu dimanche, reparti mardi, ça a fait 400 kilomètres. Il est revenu hier, repart aujourd'hui. Ça fait 800 kilomètres en tout. Il a fait 800 kilomètres pour servir le Seigneur, 800 kilomètres parce qu'en début de semaine, il a connu l'amour, l'amitié. Il a rencontré cette unité. Il a eu envie de revenir. Il est revenu pour répondre à l'appel de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de construire son Église et de la faire se lever. Rien, sauf nos peurs, nos doutes. Les filets que nous refusons de jeter à la mer, quand on dit, ouais, ben moi j'en ai plein les bottes, j'ai assez donné, je donne plus. Moi je suis trop vieux, alors je donne plus. Oui, mais moi, je suis trop jeune, je n'ai pas l'expérience. Pourtant, quand nous devenons messagers du Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps entier sont renouvelés. Tout se met à son écoute. Et c'est ça qui nous permet de nous lever pour le servir. Quel que soit le service auquel nous sommes appelés, que ce soit dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, Dieu a un plan pour nous, bien-aimés. Il a un plan pour vous tous et toutes. Un plan génial. Ça ne veut pas dire que tout va être tout rose. Ça ne veut pas dire que tout va être facile. À la Chaux-de-Fonds, sur la région, l'hiver... Les descentes, ça glisse, des fois les freins de la voiture, ils ne fonctionnent plus. Dans la vie, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Hein. Des fois, on a des grosses descentes, là, on se dit, on ne va pas pouvoir freiner. Puis des fois, on monte la côte à vélo, puis elle est longue, cette côte. Seigneur, quand est-ce que ça finit? Tout ne va pas être tout rose. Mais l'amour parfait bannit la crainte, les amis. Et l'amour parfait, il anéantit la peur. Il anéantit le jugement qui est en nous pour nous-mêmes et le jugement qui est en nous pour les autres. L'amour parfait anéantit la peur et tout ce qui va avec. L'amour parfait fait que Dieu nous construit. Dieu veut sortir le meilleur de nous-mêmes. Il veut sortir la pépite d'or là qui est cachée tout au fond de nous. Et qui dit « Ah non, ne me découvre pas, ne me découvre pas ». Dieu, il veut la sortir. Et il veut que tous ensemble, hommes, femmes, jeunes, aînés, tous ensemble, nous nous levions pour devenir enfin l'Église qu'il veut que nous soyons. Une Église en marche, une Église debout, une Église en transmission. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir encore à ces quelques questions. Est-ce que vous voulez être un disciple du Christ? Vous le voulez? Et ceux qui le veulent et qui n'y arrivent pas, qu'est-ce qui vous empêche de vous lever? Quels sont les filets que vous devez encore jeter à la mer? Je parle aussi pour moi, hein. J'en ai jeté des filets cette semaine. Quels sont les filets que nous avons encore à jeter à la mer? Je ne vous demande pas de réponse tout de suite, maintenant. Je vous propose d'y réfléchir. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va se lever, on va prier. S'il y a parmi vous des personnes qui ont besoin qu'on prie pour eux, alors venez. Venez, approchez-vous, sortez des rangs. Je demande à ce que le conseil du réveil se lève un peu, peut-être, les personnes du conseil, que s'il y a des personnes qui ont besoin de prière, ils sachent où aller. Les responsables de l'arc jurassien aussi, qu'on puisse voir qui vous êtes. Et s'il y a des personnes qui ont besoin d'une prière particulière, d'un cœur à cœur, d'une unité, allons-y. Et sinon, on va tous se lever et ensemble, on va prier.